Puis, vers le camp du maréchal, au coude de la route, je vis s'élever un long nuage de poussière annonçant une colonne en marche. Le bruit courut aussitôt que nous allions être débloqués. Songe avec quelle émotion les malheureux enfermés dans le bordge venaient de s'en assurer de leurs propres yeux. 2 heures après, nous vîmes flamber le petit village de Vin Blanc. Un officier français à cheval parut sur la route d'Alger. Il entra ventre à terre, annonçant l'arrivée de la colonne L'Allemand, composée de 8000 hommes, 10 pièces de canon et 2 mitrailleuses. Inutile de te peindre l'enthousiasme des gens, les cris de « Vive la France, vive la République !» Les Kabyles se repliaient à la hâte vers la montagne. Ils se concentraient au village arabe, près du marabout du Belois. Un pauvre soldat du train accourut sur les remparts pour jouir de ce spectacle. Je le vois encore arriver tout riant et se pencher dans un créneau. Quand il s'affaissa, la tête toute sanglante. La dernière balle avait été pour lui. On l'emporta. « Allons, allons !» criait le lieutenant Kayat. « Pas de temps à perdre, bridons, il faut faire boire les chevaux !» Mais comment leur passer la bride? Ils ne pouvaient plus ouvrir leurs bouches gercées et crevassées. On se mit pourtant à cheval et l'on partit. J'avais pris bien vite un morceau de savon. Comme nous arrivions à la fontaine turque, la tête de la colonne débouchait au près. Le général L'Allemand, en nous voyant dans cet état, se mit à sourire. Il faut avoir passé par là pour savoir quel bonheur il y a de se laver, de se savonner, de se bouchonner à fond avec de bonne eau fraîche. Toute la colonne défilait auprès de nous. Bientôt, ce fut le tour du régiment. Le régiment. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça, tu n'as jamais servi. Le régiment, vois-tu, c'est la famille du soldat. Ça remplace tout. Les petits shakos et couvre-nuques blancs, les vestes bleues de ciel, les gros pantalons rouges à jupe, les larges baudriers blancs s'avançaient au pas dans la poussière. Le cliquetis des sabres, le hennissement des chevaux nous réjouissait encore une fois l'oreille. Comme nous regardions. Et tout à coup, une voix crie « Gogel !» Mon vieux camarade Relin saute à terre, d'autres sous-officiers le suivent. Quelles bonnes et solides poignées de main on se donnait. Qu'on était content de se revoir. Mais la colonne marchait. Il fallut se remettre en selle et partir au trot pour reprendre son rang. Nous autres, les manches retroussées, nous continuâmes notre lessive. Puis après nous être bien lavés, bien savonnés, nous revînmes à Tizi Ouzou, menant les chevaux par la bride. Tout allait bien alors de notre côté. Seulement, à 26 kilomètres de nous, dans la haute montagne, le fort national restait toujours bloqué. Les Kabyles, fortement retranchés autour, avaient coupé la route en plus de 20 endroits. En attendant qu'on pût les déloger, le général L'Allemand donna l'ordre de déblayer nos environs. Et comme nous rentrions au Vorge, un bataillon partait déjà le fusil sur l'épaule pour enlever le village arabe. Mais la résistance fut plus sérieuse qu'on ne pensait. Les Kabyles, furieux de voir que nous leur échappions, se battaient avec désespoir. Il fallut envoyer un second bataillon, puis un régiment. Enfin, toute la colonne fut engagée. Au premier coup de canon, j'étais monté sur les remparts du vieux Borj, qui dominait la position. Des milliers de Kabyles, embusqués dans les maisons du village et derrière leurs immenses haies de cactus, faisaient un feu d'enfer. De tous les côtés, au milieu des orangers, des mûriers, des sycomores, s'élevait la fumée de leurs fusillades. Notre artillerie leur répondait du village européen, hachant cette verdure comme de la paille, et nos tirailleurs arrivaient sur eux au pas de course. Plus d'une ruelle était déjà pleine de morts et de blessés. La lutte fut longue, mais aux approches de la nuit, les Kabyles, enfoncés sur toute la ligne, se mirent en retraite. Leurs longues jambes brunes s'allongèrent sur la côte, grimpant au marabout du Belois, pour gagner d'autres cimes éloignées. Quelques rares coups de fusil brillaient encore de loin en loin dans les oliviers, puis tout se tut et la flamme monta sur le village, enlaçant les vieux arbres déjà mutilés, dont les grandes ombres tremblotaient dans la plaine. Cela fait, la colonne Lallemand resta 2 jours sous Tizi Ouzou. Elle rétablit les tuyaux de la fontaine, elle approvisionna la place et nous quitta le matin du 3e jour en nous laissant une compagnie d'infanterie, une pièce rayée et une mitrailleuse. Elle allait au nord, vers la mer, et livra le lendemain le sanglant combat de Taourga, qui dispersa les insurgés et les força de lever le blocus de Délice. 8 jours après, elle était déjà revenue à Temda et recevait la soumission des Beni Djemma. C'est là que notre petit détachement, escortant un convoi de pain, alla la rejoindre. Le commandant Le Tellier était à notre tête. Nous revîmes en passant Sikoumédour, complètement abandonné, le Sebaou, dont nous suivîmes encore une fois le lit desséché, et la colline où nous avions livré combat 40 jours avant. Enfin, vers 8 heures du matin, nous arrivâmes à Temda. La colonne campait sur la côte. Je passai quelques heures avec les camarades. Nous fîmes même un tour au village, et je me rappelle avoir vu là des Turcos dans une ruelle, en train de ravager quelques ruches. Ils étaient noirs de mouches et riaient comme des fous, sans s'inquiéter des piqûres, ayant sans doute un moyen de s'en préserver. Ils mordaient à même dans les rayons de miel et s'empressèrent de nous en offrir. J'acceptai et je me souviendrai longtemps de la colique qui s'ensuivit. Ce même jour, on fit sauter la maison du caïd Ali et l'on brûla Temda. Il était environ 4 heures du soir. La colonne avait plié bagage et descendait au Sebaou pour aller camper plus loin dans la montagne. Nous autres, nous reprîmes le chemin de Tizi Ouzou. Vers 5 heures, nous repassions par Sikoumédour. Les habitants de ce village avaient rejoint les insurgés. Il faisait une chaleur étouffante. Tout se taisait dans ce monceau de gourbis, de huttes, de baraques, où des centaines de cigognes avaient élu domicile. Chaque vieux toit emportait 2 ou 3 nids énormes, pleins de jeunes, dont les cous repliés et les grands becs toujours ouverts attendaient la pâture. Les mères, par douzaines, arrivaient de la vallée du Sebaou, leur apportant des couleuvres, des crapauds, des grenouilles. Les arbres mêmes étaient chargés de ces nids. On aurait dit des greniers à foin. Au-dessous, dans les petites ruelles, entre les haies touffues, couraient des colonies de poules et de poulets que les Arabes n'avaient pas eu le temps d'emmener avec le bétail. Voilà les seuls habitants de Sikoumédour. Comme nous approchions du village, le commandant donna l'ordre d'y mettre le feu, ce qui se fit rapidement par 20 de chasseurs. On arrachait du toit voisin une poignée de chaume qu'on allumait et qui vous servait ensuite de torche. Au bout 15 minutes, tout était en feu, et par ce temps chaud, calme, les flammes se réunirent bientôt en une gerbe immense, puis la fumée noire monta directement au ciel. Là, je vis une scène vraiment attendrissante et terrible. Les cigognes, ces oiseaux des marais, appelés par les cris de leurs petits, planaient au milieu de cette fumée sombre. Elles plongeaient dans le brasier et tombaient mortes sur leur couvée. Nous partîmes au pas. Mais combien de fois je tournais la tête, regardant ce spectacle navrant, et me rappelant ce que nous avions souffert nous-mêmes en France, nos villes brûlées, nos terres ravagées, nos parents fusillés par les Prussiens. 1 heure après, nous rentrions à Tizi Ouzou, et chaque jour, depuis, nous entendions gronder le canon dans la montagne. Nous voyions les villages brûlés tantôt à droite, tantôt à gauche. Vers le 1er juin, la colonne Lallemand revint camper auprès de nous. Le général ne se trouvait pas assez en force pour tenter le débloquement du fort national. mais la colonne sérèse, forte de 6 à 7 000 hommes, arrivait des environs d'Aumale. Il s'agissait d'opérer la jonction avant de commencer l'attaque. Le 5 juin au soir, étant allé serrer la main de mon ami Babelot, lieutenant au 1er régiment de tirailleurs algériens, il me dit que la nuit suivante, la colonne allait lever le camp et qu'elle serait à la pointe du jour au pied des Mahatka, dont elle gagnerait la crête pour se joindre à la colonne sérèse. En effet, la colonne l'Allemand partit le lendemain, laissant à Tizi Ouzou de la cavalerie une compagnie d'infanterie, 2 pièces de canon et 2 mitrailleuses. Ce détachement, le 6 juin au matin, partit à son tour, se dirigeant par la route muletière de Dra el Mizan vers la montagne où se trouve le village de Bounom. Les Kabyles, croyant que nous allions les attaquer de ce côté, descendirent en masse à notre rencontre, et la colonne l'Allemand, qui se trouvait plus loin, profita de cette diversion pour grimper directement sur les crêtes des Mahatka sans éprouver de résistance. Vers 11 h du matin, tout était terminé. Le détachement rentra dans le Bordj, et ce même soir, nous vîmes les feux des 2 colonnes briller à la cime des montagnes. La jonction était faite. Depuis ce moment jusqu'au 15 juin, nous entendîmes tous les jours gronder le canon derrière les Mahatka. Mais il paraît qu'on ne pouvait s'approcher du fort national dans cette direction. C'est pourquoi les 2 colonnes, Sérèse et l'Allemand, redescendirent à Tizi Ouzou. Nous les croyons découragés quand une nuit, toute l'infanterie partit, laissant la cavalerie en plaine. Elle arriva vers 4 h du matin au pied des Béniraten, près du moulin Saint-Pierre, et l'assaut de ces immenses hauteurs, couronnées par le fort national, commença tout de suite. Du haut des remparts, nous voyons nos soldats grimper à travers les oliviers et les broussailles, traînant après eux l'artillerie. Tout montait et tirait à la fois. Les pièces étaient mises en batterie sur chaque escarpement et tonnaient à leur tour. Les Kabyles se défendaient avec courage. Rien au monde ne pourrait rendre l'effet de nos 20 pièces de canon tonnant dans les échos des Béniraten. C'était un roulement formidable et grandiose. Au plus fort de l'action, le fort national fit une sortie. Les Kabyles, pris entre 2 attaques, se décidèrent enfin à quitter la position. Ils se dispersèrent et le fort fut débloqué. Vers 3 h de l'après-midi, les 2 colonnes campaient autour de ses murs. Je pourrais m'arrêter ici, puisque nous étions dégagés, mais il faut que tu connaisses la fin de cette histoire, car le reste ne regarde pas seulement les choses de la guerre, mais encore les affaires intérieures de ces pays si beaux, si riche et si malheureux. Le 24 juin au soir, le commandant Letellier du cercle de Tizi Ouzou prit le commandement de 4 escadrons de cavalerie et nous choisit pour escorte nous qui l'avions secondé dans sa défense du Bordj. Nous allâmes coucher sur les cendres de Sikoumédour. Le 25, nous campions un peu au-dessus de Temda. Le 28, de grand matin, nous partîmes avec le commandant, les 4 escadrons et les spahis du bureau arabe. Nous nous rendîmes au village de Djemma Sabridj, dans la tribu des Beni Frassen, pour recevoir leur soumission et les maintenir par notre présence, car l'insurrection n'était pas comprimée. Une foule d'insurgés allait encore grossir le nombre des combattants des Sheridans. Tout ce jour, le canon se fit entendre dans la direction du fort national. Il devait se livrer là-bas une véritable bataille. La précaution du commandant ne fut pas inutile. Nous avions nos chevaux au piquet sur la place du village et personne n'était tenté, nous voyant là, d'aller se battre ailleurs. Le village de Djemma Sabridj est peut-être un des plus beaux de l'Algérie. On ne s'en douterait pas en le regardant de la vallée, car des rochers se hérissent tout autour. mais arrivé au haut, c'est un paradis terrestre. Plus de 50 sources bouillonnent aux environs, et dans ce pays de soleil brûlant, l'eau, c'est tout, c'est l'abondance, la richesse. Aussi, toutes les maisons de Djemas à Bridge sont-elles bâties en pierre, couvertes de tuiles, entourées de jardins, et plongée dans la verdure des noyers, des cerisiers, des orangers, des figuiers, tous couverts de fruits et entrelacés d'énormes plants de vignes. Près de la mosquée, j'ai même remarqué trois grands palmiers, arbres assez rares dans les hautes régions de la Kabylie. Les femmes et les enfants avaient seuls quitté le village. Nous les voyions qui nous observaient d'un air craintif du haut des rochers. Les chasseurs firent là le café. Les Kabyles nous apportaient des couffins pleins de figues sèches. Les pauvres gens, ayant vu brûler tant d'autres villages, avaient peur. Enfin, le commandant, qui se promenait de long en large, tout pensif, donna l'ordre du départ et nous retournâmes au camp où bivouaquaient les camarades. Nous repartîmes de là le jour suivant, remontant le Sebaou pour aller camper à 10 ou 12 kilomètres plus haut, vers les sources de la rivière. La vallée se rétrécissait toujours à mesure que nous avancions. Des rochers bruns se dressaient à droite et à gauche, les cultures devenaient rares, la ronce, le chêne nain, les lentisques prenaient le dessus, à peine si quelques petits villages se montraient encore au fond de ces halliers. Le lendemain, de bonne heure, le commandant fit partir un escadron en reconnaissance chez les Beni Djema, puis il nous emmena pousser une pointe très avant dans la vallée. Vers 11 heures, nous atteignîmes un mamelon où nous restâmes toute la journée en observation. Le soir, nous rentrâmes au camp. La nuit, dans ce recoin, se passa très bien, et le lendemain, avant le jour, nous repartîmes encore, renforcé d'un peloton du 1er régiment de chasseurs. Après avoir marché pendant 3 ou 4 heures à travers des broussailles, n'offrant plus trace de sentier, nous arrivâmes près d'un petit marabout solitaire, perdu dans les hautes herbes. Un verger de figuiers au-dessous, sur la pente du ravin et plus bas un moulin kabyle au bord de la rivière, profondément encaissé. Ce moulin couvert de chaume, les poutres moussues, paraissaient vieux comme le temps. L'eau lui venait d'une cascade galopant sur les rochers et qui tombait dans un gros tronc d'arbre creux d'environ 15 pieds. Au bas de l'arbre se trouvait une turbine en bois grossièrement taillée et sur le pivot même de la turbine, la meule en forme de toton. Quand on voulait arrêter le mouvement, il suffisait de repousser l'arbre attaché par une corde à l'autre bout. L'eau tombait alors à côté. J'ai regardé cela très attentivement. Toutes les choses naturelles m'intéressent. Tu vois que les turbines ne datent pas d'aujourd'hui, car cette vieille baraque avait pour le moins 150 ans. Tout autour croissaient d'énormes frênes. Je m'étais assis au bord du courant, fumant ma pipe. Mon camarade Ignard était en vedette près du marabout avec 5 hommes et nos chasseurs arrachaient des oignons dans le petit jardin à côté pour manger avec leur pain. Il pouvait être 10 heures lorsque le commandant donna l'ordre de remonter à cheval. On descendit dans le lit de la rivière presque à sec et l'on fit halte. Nous étions là depuis environ un quart d'heure, le commandant à 25 ou 30 pas en avant, quand nous vîmes arriver une femme européenne sur un mulet, escortée de 2 Kabyles armés. Cette femme, déjà vieille, était habillée d'une robe en loque. Elle avait un chapeau de paille, les bords rabattus et liés contre les oreilles. En arrivant près du commandant, elle descendit de sa mule et, se jetant à genoux, elle lui embrassa les mains, les bottes et jusqu'aux pieds de son cheval. Nous ne savions pas ce que cela voulait dire, et comme Ali, le cavalier du bureau arabe, passait près de moi, Je lui demandai ce que c'était. « Ça, maréchal des logis, dit-il, c'est la femme d'un colon de Bordj Menayel que Caïd Ali a faite prisonnière. Avec 45 autres du même village, il l'envoie en parlementaire. »